Chapitre 4. L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France, 1848-1870. Cours 2. La société française sous le Second Empire. Le Second Empire accompagne et encadre les mutations sociales provoquées par l'industrialisation et l'urbanisation. Toutefois, si elle voit l'émergence du salariat et d'un monde ouvrier plus structuré, la société française reste majoritairement rurale. A. Les conséquences sociales de l'industrialisation. L'essor de la bourgeoisie et des classes moyennes urbaines. Sous le Second Empire, la bourgeoisie prospère. Elle est cependant très diverse. Dans la grande bourgeoisie se côtoient rentiers, industriels et banquiers qui ont fait fortune, les familles Perrer et Schneider par exemple. La moyenne rassemble les professions libérales, avocats, notaires, médecins. La petite est constituée de commerçants, de fonctionnaires et d'un nombre croissant d'employés, car le salariat se développe. Ces cols blancs forment une classe moyenne émergente qui se situe entre la classe dirigeante et les milieux populaires. Ces derniers, en ville, sont essentiellement constitués par les domestiques et les ouvriers. Un monde ouvrier en pleine évolution. La création d'usines nécessitant une main-d'œuvre abondante entraîne l'afflux de ruraux dans les grandes villes et les centres industriels et miniers, Nord, Pas-de-Calais, Alsace. Les ouvriers qualifiés dont le travail est proche de l'artisanat commencent à être remplacés par des ouvriers non qualifiés travaillant en usine. Ce sont ces ouvriers qui forment, selon Marx, le prolétariat exploité par les capitalistes. Des quartiers ouvriers se développent, souvent en périphérie, où se concentrent les problèmes sociaux. Les débats politiques sont nourris par la question sociale. En France, comme dans les autres pays qui s'industrialisent, les idées socialistes se répandent dans la classe ouvrière. B. Napoléon III et les ouvriers. Des mesures sociales. Louis-Napoléon Bonaparte a écrit en 1844 « L'extinction du paupérisme », présenté comme un écrit qui a pour unique but le bien-être de la classe ouvrière. Devenu empereur, il veut, sous l'influence saint-simonienne, concilier le développement du capitalisme et la législation sociale en encourageant notamment le paternalisme chez les patrons. Il espère ainsi détourner les ouvriers de l'opposition républicaine. Le droit de grève est accordé en 1864 et les syndicats sont tolérés à partir de 1866. Une loi de 1868 abolit l'article 1781 du Code civil qui établissait la supériorité de l'employeur sur l'employé devant la justice. Une opposition ouvrière persistante. Ces mesures ne convainquent guère les ouvriers. L'Empire continue à être perçu comme un régime bourgeois qui exerce une surveillance policière par le biais du livret ouvrier. Les militants de l'Internationale poussent à la grève. Le 16 juin 1869, à la Ricamari, localité minière proche de Saint-Étienne, l'armée arrête des grévistes et tire sur la foule qui réclamait leur libération, tuant 14 personnes. C'est une société encore majoritairement paysanne. Un âge d'or des campagnes. La France rurale bénéficie de la croissance généralisée. Les régions d'agriculture intensive, le Nord et le bassin parisien, se mécanisent et développent la production de la pomme de terre ou de la betterave. Le chemin de fer favorise la spécialisation. Chaque région peut privilégier une production. Les fruits dans le Midi, par exemple, exportés dans toute la France grâce au train. La viticulture, présente presque partout sur le territoire, connaît son apogée. L'adhésion du monde paysan au régime. En 1850, la population rurale française atteint un pic historique. 1 million de paysans émigrent vers les villes durant le Second Empire, ce qui assure le plein emploi dans les campagnes. Dans le même temps, les revenus paysans progressent grâce à la hausse des prix agricoles. Sensibles à la relative amélioration de leurs conditions de vie et sans doute moins attachés aux libertés politiques que les citadins, les paysans soutiennent le régime impérial.